Accent d'Europe, Catherine Roland.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers.
Bonjour à tous, et oui, l'homme a débarqué avec ses nouveaux OGM mis au point par les laboratoires et agronomes. Mais sont-ils moins nocifs que les anciens? L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne estime en tout cas aujourd'hui qu'il n'échappe pas forcément à la réglementation sur les OGM, on n'est pas sûr. Hier en tout cas, les agriculteurs se sont rassemblés dans le quartier européen de Bruxelles. Ils redoutent, eux, les conséquences de ces OGM cachés sur la santé des consommateurs et leur propre travail. Ils poussent donc au principe de précaution. Reportage Laxmilota.
C'est un épouvantail. C'est pour effrayer les grandes sociétés, les compagnies qui essayent de nous imposer des nouveaux OGM.
Les manifestants brandissent un épouvantail géant pour tenter de faire fuir les nouveaux OGM. Des dizaines d'agriculteurs, membres de l'association Coordination Européenne Via Campesina, la voix paysanne en espagnol, sont présents. Ils déposent un dossier dans les bureaux de la Commission européenne avec une demande, ne pas déréglementer ces nouvelles biotechnologies. Mais que sont ces nouveaux OGM? Réponse avec Bart Staes, eurodéputé vert.
Ce sont des nouvelles techniques dans la biotechnologie où on change le DNA, où on met des gènes un par un et où on change le caractère de la plante. L'industrie biotechnologique considère ces techniques comme quelque chose qui ne tombe pas sous le règlement actuel des OGM. C'est ce que nous trouvons en tant que Verts inacceptable.
Qui croit que les OGM sont nécessaires pour nourrir toute la population de la planète? Et qui croit que les OGM sont nécessaires pour rendre l'agriculture bio plus performante?
Personne!
Personne! C'est
ça. Des organismes génétiquement modifiés qui ne portent pas officiellement leur nom, selon Eric Gall de la Fédération européenne de l'agriculture biologique. Les industriels les nomment par exemple « nouvelles techniques de sélection ». Eric Gall.
Comme ils savent que les consommateurs européens refusent les OGM, ils utilisent d'autres termes, tels que la mutagénèse dirigée par exemple, ou l'amélioration des plantes, ou les nouvelles techniques de sélection génétique pour faire passer l'idée qu'ils sont différents des OGM existants. Or, ces techniques de modification génétique présentent les mêmes risques. Le mouvement de l'agriculture biologique demande à la Commission européenne de reconnaître que ces nouvelles technologies sont des OGM et qu'elles doivent être réglementées comme des OGM. Et donc, il faut qu'il y ait une évaluation du risque et une traçabilité et un étiquetage obligatoire.
Ces nouvelles techniques n'ont pour l'instant pas de statut juridique. Le Conseil d'État français a saisi la Cour de justice de l'UE pour obtenir une réponse. Guy Kassler est membre fondateur de la Confédération paysanne.
À l'heure actuelle, l'Europe n'a pas pris de décision. Et donc la question qui est posée à la Cour de justice européenne par le Conseil d'État, c'est surtout au nom du principe de précaution. Donc est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Est-ce qu'il y a des risques pour l'environnement? Et est-ce que telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, la réglementation européenne qui s'appuie sur le principe de précaution s'applique ou non à ces nouveaux OGM?
Stéphane Teldeman est agriculteur belge. Sa ferme se situe près de Charleroi. Pour lui, il y a un risque réel pour la biodiversité.
Enfin, moi, personnellement, sur ma ferme, c'est encore moi qui décide ce que je cultive. Mais bon, mon choix est de toute manière orienté par le marché. Je ne vais pas aller cultiver quelque chose qu'on n'achète pas. Donc, si à un moment, ben, je sais pas, moi, il y a une variété de céréales, de froment que l'industrie demande en masse, et que justement, c'est une variété OGM, ben, le fermier moyen, ben, il sera peut-être obligé de produire cette variété de froment-là et pas une autre, quoi. Oui, c'est ce que je crains, voilà, que le marché soit orienté par ces nouvelles variétés et ces variétés OGM, quoi. Moi, je pense qu'il y a un risque pour le consommateur. On réclame un étiquetage clair pour que tout le monde soit informé. Je pense que c'est la moindre des choses, de ce qu'il mange, de ce qu'il achète, de ce qu'il a dans son assiette, quoi. C'est une technologie nouvelle, hein, à l'échelle de la sélection comme on l'a connue dans les siècles passés, et on ne sait pas encore évaluer clairement l'impact sur la santé des consommateurs.
Et cet agriculteur le rappelle, les OGM sont déjà dans nos assiettes de manière indirecte.
Il y a du soja transgénique qui arrive en Union européenne et la majorité des vaches laitières chez nous mangent du soja OGM qui est est achetée au Brésil ou sur d'autres continents.
La Cour de justice de l'Union européenne rendra sa décision sur le statut des nouveaux OGM d'ici quelques mois.
Les europhiles britanniques sont plutôt pessimistes pour l'année à venir. L'accord sur le Brexit devrait être finalisé entre Londres et Bruxelles en 2018. Mais une jeune Anglaise n'a pas baissé les bras. Madeleine Hackey, farouche opposante au Brexit, n'a pas hésité à enfiler le costume de super-héroïne pour sauver son pays de ce qui sera, selon elle, un désastre. Portrait signé Marie Millon.
Le Royaume-Uni a besoin de super-héros pour le sauver du Brexit. Des propos lancés en désespoir de cause par Madeleine Hackey. Le pays marche comme un funambule vers la sortie de l'Europe, disent les europhiles. L'autoproclamée super-girl de l'UE est là pour le secouer et le réveiller. Vêtue d'un costume de superwoman, cap et collant bien sûr, mais aussi étoiles européennes autour du fameux S, la jeune femme de 23 ans, originaire de Sheffield dans le nord de l'Angleterre, est une farouche combattante anti-Brexit. Je suis opposée à chacun de ces aspects et elle le fait savoir de toutes les manières possibles avec son costume, en habillant sa mascotte, son husky blanc d'un petit manteau aux couleurs du drapeau européen. Elle le dit aussi sur les réseaux sociaux et dans son blog et même en chanson. Call it mayhem, call it madness, call it whatever you want, but it's a goddamn mess. Appelez ça de la pagaille ou de la folie, chante Madeleine Hackey en parlant du Brexit et en demandant à la première ministre Theresa May de démissionner et d'arrêter de mentir. La jeune femme peut s'enorgueillir de 10 000 abonnés sur Twitter, même si ses vidéos ne sont vues chacune que moins de 500 fois pour la plupart. Elle s'adresse surtout aux jeunes, ceux qui se sont désintéressés de l'Europe et ne sont pas allés voter lors du référendum, ceux-là même qui doivent lever la voix s'ils veulent arrêter le Brexit, car pour elle, ce n'est pas trop tard. La Supergirl est décidément sur tous les fronts puisqu'elle écrit aussi des petits livres illustrés. Et après avoir gagné un concours européen grâce à son blog, elle a été invitée à Bruxelles en octobre. Revêtue de sa cape, elle voulait remettre son ouvrage à Michel Barnier, le négociateur européen. Mais la sécurité l'a fait sortir de la salle de la conférence de presse. « Ça m'a énervée parce que c'était très antidémocratique de me faire quitter la salle », a-t-elle réagi sur la BBC. La Supergirl n'est pas une amoureuse transie qui ne voit rien à redire à l'Europe, mais ça ne l'empêche pas de porter ses couleurs.
Le 1er janvier est en général une date d'augmentation des prix en France. Cette année n'a pas dérogé à la règle avec la hausse des tarifs postaux de quelques centimes d'euros, le prix du timbre passant pour une lettre prioritaire de 85 à 95 centimes. Il faut dire que le déclin du courrier classique ne cesse de s'accentuer, ce qui oblige la Poste à s'orienter vers d'autres activités. Confrontés à un contexte similaire, les autres postes européennes ont dû chacune à leur façon s'adapter à un monde qui change. Et c'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors tout d'abord Daniel, les Français sont-ils les seuls à subir cette hausse des tarifs postaux ?
Nullement Catherine. Et je dirais même qu'ils ne sont pas les plus mal lotis en la matière. Depuis quelques années, on constate que les pays ayant connu les plus fortes hausses de tarifs d'affranchissement sont également ceux qui ont vu baisser le plus le volume du courrier. Ainsi, en 10 ans, le prix du timbre domestique standard a pratiquement été multiplié par 5 au Danemark et en Italie, pays où les échanges de lettres ont le plus diminué. En France, la hausse de l'affranchissement a été de 80% depuis 2008, comme au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Mais des pays comme l'Allemagne, la Suède ou la Belgique ont connu des hausses très modérées de 5 à 15%.
Pourquoi cette disparité spectaculaire ?
Aucune explication simple. En fait, les différences de tarifs tiennent plus à la situation particulière des groupes postaux dans chaque pays, de l'état de leurs finances et surtout de leur stratégie de marché. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la plupart des groupes postaux européens, qu'ils soient publics ou privés, dégagent des bénéfices. Parmi les plus profitables, on trouve le néerlandais PostNL ou le britannique Royal Mail, dont le taux de rentabilité dépasse 7%. L'allemand Deutsche Post n'est pas loin des 5%. La Poste atteint, elle, 3,6%, mais le groupe français fait mieux que les 2% de Poste Italiane ou de l'espagnol Correos.
Mais j'imagine que tous ces groupes n'ont ni la même importance, ni le même statut.
Avec ses 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016, le groupe Deutsche Post domine et pèse deux fois plus que la Poste italienne. La Poste en France n'arrive qu'en troisième position européenne avec un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros. C'est quand même plus du double de Royal Mail et trois fois plus que la Poste suisse. Quant au statut privé ou public, il est assez partagé. La Poste en France, mais aussi la Poste suisse, le suédo-danois Post Nord et Correos en Espagne sont à 100% publics. Poste Italiane reste une entité publique, mais son capital est privatisé à 38% depuis 2015. Quant au groupe Deutsche Post, c'est une entité privée à 80%. Enfin, Royal Mail est totalement privé depuis 2015.
Comment s'expliquent ces différences de poids entre groupes postaux, Daniel ?
Par le périmètre de leurs activités. Depuis au moins deux décennies, aucun groupe n'a pu se dispenser de mener une politique de diversification. Mais certains ont développé des activités annexes qui n'ont plus qu'un lointain rapport avec les services postaux. Meilleur exemple, Poste Italiane, qui réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires en vendant des services bancaires et financiers, ainsi que des produits d'assurance. La Poste française est également diversifiée, puisqu'elle tire un quart de son chiffre d'affaires de son activité Colis Express, avec Géoposte, et un autre quart de son activité bancaire avec la Banque Postale. Mais le courrier et les colis postaux représentent encore près de la moitié de son activité, alors qu'en Allemagne, le métier historique de la Deutsche Post ne représente plus que 20% et n'occupe que 170 000 employés sur près de 500 000.
Vous voulez dire que la Poste allemande ne s'occupe presque plus du courrier ?
N'exagérons pas, puisqu'elle distribue assez rapidement le plus gros volume de courriers d'Europe. Mais près de 300 000 employés de Deutsche Post travaillent pour DHL, sa filiale de colis express, logistique, transport et fret, rachetée en 2002. Le groupe Deutsche Post DHL est d'ailleurs le premier groupe mondial de logistique. Ses effectifs sont deux fois plus nombreux que les 250 000 employés de la Poste. Les effectifs de Royal Mail ou de Poste Italiane sont encore plus réduits, respectivement 160 et 140 000 personnes. Il faut dire que Royal Mail est essentiellement centré sur l'activité postale, de même que les postes néerlandaises et espagnoles. À l'inverse, d'autres groupes postaux accentuent leur diversification. La Poste en France, qui après la téléphonie mobile ou le webmail, se lance dans les services à la personne. Mais également la Poste suisse, qui fait des transports en commun et du commerce.
Alors finalement, la mutation des postes est générale.
Oui, elles ont des atouts, notamment en termes de réseau, de logistique et de clientèle. Des atouts qui leur permettent de lancer des activités parallèles et d'exploiter le créneau porteur du colis. Mais pour les groupes postaux qui sont absents du secteur très rentable du colis express, la concurrence du commerce en ligne, en particulier du géant Amazon, est très rude.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Allez voir un religieux ou le sorcier du village quand ça ne va pas, c'est ce que font les habitants des Balkans, occultant ainsi les professionnels comme les psychologues ou encore les psychiatres. La démarche d'entamer une psychothérapie n'est pas encore entrée dans les mœurs. Et comment la financer de toute façon quand on sait qu'un Bosnien, par exemple, touche un salaire moyen de 400 euros. Pourtant, le pays a connu la guerre il y a une vingtaine d'années. Les besoins sont énormes. Reportage en Bosnie de Mercia Nesic.
Ici, ce n'est pas un médecin ou un psychologue qui donne des consultations, mais un imam guérisseur. Comme dans certains pays africains, en Bosnie et dans les Balkans, en cas de stress ou de dépression, on ne se rend pas spontanément chez un psy. Hannah, la trentaine, accepte de parler, mais veut rester anonyme.
La séparation avec mon ex après des années de relation s'est vraiment très mal passée. Je suis sortie de tout ça accablée par des problèmes financiers. J'ai aussi eu des problèmes de santé, du stress. J'ai eu l'idée d'aller voir un imam pour avoir de l'aide. Il m'a prise très au sérieux. Après la discussion, je me suis sentie mieux.
Les numéros de téléphone de ces praticiens de l'occulte circulent de bouche à oreille. La trentaine, style urbain branché, l'air très doux. L'imam guérisseur, sarajevien, est réputé sérieux. Il accepte d'abord de se confier, puis change d'avis finalement. Son activité n'est pas déclarée. Elle est illégale aux yeux de la loi, mais aussi de la communauté musulmane pour qui on est proche de la sorcellerie. Nevena Čolavska Hercog est une psychiatre et une psychothérapeute serbe renommée. Et pourtant, elle refuse de condamner complètement ces pratiques.
Demander de l'aide, c'est une démarche positive en soi. Cela peut faire avancer. Mais attention, il y a des situations qui exigent que l'on s'adresse à un professionnel. En plus, notre région a connu un conflit il n'y a pas si longtemps. Mais malgré tout, avec la globalisation, tout s'accélère. La vision de la psychothérapie change. Elle a toute sa place, en tout cas pour faire émerger une société plus saine.
Chez l'imam ou le sorcier, chacun donne la somme de son choix à la hauteur de ses possibilités. Pour une consultation chez un psychologue ou un psychiatre installé en libéral, il faut compter entre 15 et 50 euros. Interroger le défenseur des droits bosniens Jasminka Djurmur renvoie au réseau public de centres de santé mentale. Ils sont une soixantaine en Bosnie, mais cela reste bien insuffisant, Jasminka Djurmur.
Ces centres ont été récemment mis en place et les gens n'ont pas encore bien intégré qu'ils existent. Ce sont ces centres qui doivent s'occuper de la santé mentale de la population. Et le pays est sorti d'une guerre très dure. Des femmes ont été violées, des gens ont subi la torture. Quand on regarde nos besoins en termes de prise en charge, la réponse, quelle qu'elle soit, est toujours insuffisante.
Des réponses insuffisantes et difficiles à coordonner au niveau national, d'autant que la Bosnie est divisée en deux entités et plusieurs cantons. Le pays compte plusieurs ministères de la santé et donc des systèmes de prise en charge différents.
C'est une comédie musicale qui fait salle comble, devinez où ? Eh bien au Portugal, une comédie musicale sur les Portugais, qui s'appelle d'ailleurs The Portuguese. Joué en anglais et d'abord destiné aux touristes, le spectacle présente un condensé humoristique de l'histoire du pays. Marilyn Darcy.
Don Sébastien, chantant Like Virgin de Madonna pour expliquer la bataille d'Alcacer Quibir au nord du Maroc en 1578. Amalia Rodriguez étendant son linge dans la rue en fredonnant. Les explorateurs partant à la conquête du monde dans des baignoires. Dans la comédie musicale de Portuguese, tout a un sens et rien n'en a vraiment. Les auteurs ont pris le parti d'en rire pour raconter l'histoire du Portugal et tenter d'expliquer ce qu'est un Portugais. Le spectacle en anglais s'adresse d'abord aux touristes et aux étrangers en général et l'objectif est avant tout de les amuser. D'ailleurs, il ne respecte pas d'ordre chronologique et s'applique à ne pas ressembler à un livre d'histoire. De Portuguese se joue des clichés, c'est même l'essence de son scénario. En effet, les auteurs sont partis de ce que les touristes sont censés connaître du Portugal et que l'on retrouve dans tous les guides. Les figures ou les événements historiques sont donc triturés et les traits forcés pour faire rire. Comme ce Napoléon qui se prépare à envahir le Portugal pour la quatrième fois, mais qui ne trouve pas de chambre à Lisbonne parce que tout est occupé par les touristes. Ou bien cette scène improbable du dictateur Salazar jouant aux cartes avec James Bond. Le personnage de l'espion de Sa Majesté ayant été créé par Ian Fleming à Estoril, station balnéaire de Lisbonne. Au passage, les auteurs auront convoqué sur scène le groupe ABBA, les Spice Girls et même Serge Gainsbourg. Il n'est pas sûr que les spectateurs en sachent davantage sur les Portugais à l'issue du spectacle. La difficulté majeure étant de trouver des éléments particuliers au pays et à ses habitants, tout en les rendant universels et immédiatement compréhensibles par la majorité des spectateurs. En tout cas, les musiciens sur scène et les 10 acteurs-chanteurs se dépensent sans compter et maîtrisent parfaitement la langue de Shakespeare. Et désormais, la production envisage de doter le spectacle de sous-titres pour permettre aux Portugais de suivre eux aussi cette comédie musicale au style Broadway, émaillée de nonsense si chère aux anglo-saxons.
Accent d'Europe, c'est terminé. Jusqu'à demain, à la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants de journal.